Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite une joyeuse fête des pains sans levain et en particulier un joyeux premier jour de la fête des pains sans levain. Il y a un événement qui a eu lieu le premier jour de la fête des pains sans levain, un événement auquel vous n'avez peut-être pas pensé dans ces termes déjà. Je voudrais commencer mon sermon aujourd'hui en regardant ça d'un peu plus près. Veuillez vous reporter, s'il vous plaît, à Exode chapitre 12, verset 40, où nous avons un passage qui parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, qui a eu lieu le premier jour de la fête des pains sans levain, justement. Dans Exode chapitre 12, au verset 40, nous lisons le nombre d'années qu'ils ont passées ou qu'ils ont passées dans un certain séjour. Dans Exode chapitre 12, verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. 430 ans après, le jour même, donc 430 ans auparavant, le jour même, un événement particulier a eu lieu. Maintenant, nous devons savoir que, on peut savoir par d'autres passages, que les 430 ans ne se réfèrent pas à la captivité des Israélites en Égypte, mais le séjour, un certain séjour qui a eu lieu. Et pour vérifier cela davantage, nous allons prendre maintenant Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16 et 17 également, où nous avons une référence à cette même période de 430 ans. Galates chapitre 3, à partir du verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé et qu'ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. La loi survenue 430 ans plus tard. C'est la même période de 430 ans dont nous avons lu dans Exode chapitre 12, verset 40. La loi que Dieu a donnée sur le mont Sinaï, la loi a été donnée le même jour que quand Abraham a reçu les promesses. Et en fait, les 430 ans, c'est entre le moment quand Abraham a reçu les promesses, que sa postérité serait grande, etc., et le moment quand la loi a été donnée aux Israélites sortis de l'Égypte. La loi a donc été donnée 430 ans après que les promesses de l'Alliance aient été confirmées à Abraham. Et puisque nous avons lu « au jour même », ça veut dire que c'est le jour même quand la loi de Dieu a été donnée aux Israélites. La loi sur le mont Sinaï a été donnée aux Israélites le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où nous célébrons aujourd'hui. Premier jour de la fête des pains sans levain. C'est intéressant à considérer. Les pains sans levain, la fête des pains sans levain, a un lien avec l'alliance qui a été faite à Abraham et avec également la loi de Dieu. Maintenant, revenons dans Exode chapitre 12 et lisons quelques autres versets. Exode chapitre 12. Nous prendrons maintenant le verset 15. Exode chapitre 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, nous voici maintenant. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous observons la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Pourquoi est-ce que nous observons cette fête pendant 7 jours? Pourquoi est-ce que nous le faisons encore pendant la période de la Nouvelle Alliance, alors que l'Ancienne Alliance a pris fin. Eh bien, la semaine dernière, mon épouse est allée au magasin pour acheter des matzos. C'est un mot en hébreu tiré de l'hébreu qui veut dire des pains azimes particuliers. Elle a acheté aussi d'autres pains sans levain que nous pourrons manger pendant la période de cette fête. Il y a un parfum de matzos que j'aime particulièrement. C'est des matzos de parfum œufs et oignons. Quand on met un petit peu de beurre dessus, légèrement salé, c'est vraiment délicieux. Cette année, avec ce qui se passe avec le coronavirus, mon épouse n'en a pas trouvé. Malheureusement pour moi, parce que ça, c'est un aspect que j'aime bien pendant la fête des pains sans levain. Mais je ne voudrais pas quand même manger de ce pain sans levain, ces matzos, toute l'année, même s'il s'agit de matzos œufs et oignons. On ne voudrait pas le manger, parce que c'est pas le meilleur des pains. On préfère, en particulier dans le monde francophone, les baguettes, les bons pains qui sont levés. Deutéronome chapitre 16 dit une chose ou a un nom pour ces pains, un nom particulier, qui sont vrais. Deutéronome chapitre 16, verset 3. Lisons ce qui est dit ici à propos des pains azimes, des pains sans levain que nous mangeons pendant cette fête. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Les pains sans levain sont appelés du pain d'affliction. Les Israélites n'avaient pas de matzot, œufs et oignons. Bien au contraire, ce n'était pas un pain azim aussi agréable à manger pour eux. Car pour Israël, à la suite de cette histoire, cette fête était un rappel de leur libération d'Égypte. Alors vous et moi, nous n'avons jamais été libérés de l'esclave en Égypte. Pourquoi est-ce que nous, on continuerait à observer cette fête? Alors que la plupart des églises dites chrétiennes aujourd'hui pensent que c'est du passé, c'est fini, on n'a pas besoin de respecter ces jours, ils ont d'autres fêtes maintenant à respecter. Tout ça, c'est faire partie de l'Ancienne Alliance. Est-ce que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, enseigne le respect toujours de cette fête des pains sans levain? Eh bien, la réponse est oui. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous voyons très clairement que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ et l'Église qui a été fondée par Jésus-Christ le jour de la Pentecôte en l'an 31, dont nous avons un récit préservé pendant 60 ans, une soixantaine d'années au moins, eh bien nous savons qu'ils ont continué à observer cette fête, mais avec une nouvelle compréhension. Les symboles ont changé de signification. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Lisons ce que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'origine païenne de Corinthe. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » Quelle fête? Célébrons donc la fête pendant laquelle on ne mange pas de pain levé. C'est la seule fête dont il peut faire référence ici. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pureté et de la vérité. L'Église à Corinthe, on peut le démontrer assez facilement, n'était pas d'origine juive. L'Épître de Paul aux Corinthiens, cette première épître, est écrite une bonne trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et alors, Paul leur parle comme s'il comprenait très bien la signification d'une fête que la plupart des églises aujourd'hui croient qu'ils aient cessé d'observer depuis 30 ans. Est-ce que ces païens auraient compris la signification et le respect d'une fête où on ne mangeait pas de pain levé si on avait cessé tout ça 30 ans auparavant, bien longtemps avant qu'ils ne soient entrés dans l'Église? Difficile à croire, difficile à accepter. Non, ces membres comprenaient très bien. Et même Paul dit en toutes lettres, « Célébrons donc la fête, nous allons célébrer cette fête ». Cette fête pendant laquelle on ne mange pas de pain levain, on mange des pains sans levain. Et il explique en même temps quelle est la nouvelle compréhension, le nouveau symbolisme des pains sans levain pendant cette fête. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, donc le péché, ce qui est méchant, ce qui transgresse la loi et la voie de Dieu, c'est le péché, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le levain représente le temps de cette fête, le péché. Le péché qui doit être sorti de nos vies, le péché qui est sorti de nos vies au moment de notre baptême, nous sommes lavés de nos péchés, le péché est enlevé, et tout comme nous entrons dans cette fête des pains sans levain, sans qu'il y ait de produits levés dans la maison. C'est une illustration de ce que nous devons faire physiquement. Alors, ça veut dire, frères et sœurs, que pendant les moments ou pendant cette période quand nous avons ôté le levain de chez nous, nous devons nous assurer que l'activité physique de nettoyage n'évince pas notre réflexion sur les leçons spirituelles dont nous devons nous souvenir, en particulier pendant cette fête. Nous savons que certaines, même beaucoup aujourd'hui, prétendent que Christ a tout fait pour nous. Nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons qu'à accepter Jésus-Christ dans notre cœur, et voilà, c'est tout. Plus rien à faire sur le plan physique. Mais cela, en fait, déprécie son sacrifice. Nous comprenons le précieux du sacrifice de Christ, c'est par son sacrifice que nous sommes gratuitement lavés de nos péchés. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous recevons ce salut gratuitement. Nous ne le méritons pas, nous ne pouvons pas le gagner par aucun effort. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas des attentes de nous, qu'il ne s'attend pas à ce que nous fassions certaines choses. Et de dire que nous n'avons rien à faire, Christ a tout fait, cela déprécie son sacrifice. Nous devons travailler, nous devons œuvrer, nous avons des efforts à déployer pour enlever, pour empêcher que le péché ne revienne dans nos vies. Le péché a été ôté de nos vies par le sacrifice de Christ, par son sang versé. Mais notre lutte pendant le temps de cette vie, c'est d'empêcher que le péché ne revienne. Ça fait partie du repentir. Repentez-vous, ça ne veut pas dire simplement un regret des péchés passés, mais la détermination d'empêcher au péché de revenir dans nos vies. Et ça, c'est l'effort de toute une vie. Ça, c'est l'effort de faire disparaître le vieux levain. Comme Paul l'a dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Cette épître a été probablement écrite pendant la fête des pains sans levain. L'église de Corinthe n'était pas sans levain spirituellement. Il y avait des problèmes très graves dans ce pays, et Paul les encourage à faire disparaître le levain qui existait encore spirituellement, mais au moins physiquement, ils étaient sans levain. Ils avaient sorti le levain de leur maison. Alors, pour nous aider à faire cela aujourd'hui, à notre époque, je vous propose de réfléchir à certaines des leçons que nous devons tirer de la fête des pains sans levain. Pourquoi le levain caractérise-t-il le péché? Seulement pendant cette fête. Avant et après, profitons bien des bonnes baguettes, des bons petits chauds, etc. Ça, c'est bon. Mais pendant le temps de cette fête, nous n'en mangeons pas. Pourquoi? Quelles sont les leçons sur lesquelles nous devons réfléchir pendant cette période quand nous éliminons de notre régime alimentaire le levain, quand nous observons cette fête aujourd'hui? C'est ce que nous allons faire pendant le reste du temps que nous avons ensemble. Première leçon que nous devons tirer du levain, et pourquoi le levain représente le péché. Nous l'avons lu tout à l'heure, verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 5. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Si nous allons faire lever une pâte chez nous, on a un petit sachet de levain, il faut très peu de levure à mettre dans la pâte, on le laisse gonfler un petit peu, mais un peu de levain peut faire gonfler toute la pâte à cause de ce processus chimique qui a eu lieu. Et de la même manière, un peu de péché peuvent nous habiter complètement, peut nous faire gonfler complètement et devenir péché, peut gonfler toute la pâte, faire lever toute la pâte. Le péché, un grand péché, peut commencer tout petit, avec une simple pensée. Et si on laisse cours à cette pensée, eh bien la pensée peut nous amener à agir. Et une action peut en amener une autre, etc., etc. Et on peut finir par des péchés graves et énormes qui ont commencé tout petit. Là où nous avions habité avant de nous déplacer, là où nous sommes maintenant, avant notre déménagement, nous avions une plante grimpante dans notre cour, devant la maison, dans le jardin. Je ne connais pas le nom de cette plante, mais j'ai appris à m'en méfier. Hein, parce que cette plante possédait un vaste système de racines, juste en dessous de la surface du sol. Et quand une pousse sortait du sol, j'irais pour le tirer, pour essayer de l'enlever, l'extirper. Et quand je tirais pour la déraciner, une longue vrille sortait attachée à d'autres et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un réseau de racines qui étaient toutes attachées les unes aux autres. De telle manière que je n'ai jamais réussi à tout extirper. Je ne pouvais jamais tout extraire parce qu'il y avait une cassure quelque part et il y avait des bouts que je ne le voyais pas, qui étaient encore enfouis, enterrés. Le système racinaire était trop répandu. Je n'arrivais pas à tout arracher. C'était pas visible, mais après quelque temps, je pensais avoir tout fait. Après quelque temps, un autre pouce sortait du sol. Eh bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est un peu comme ça. Une petite racine qui est reliée à d'autres racines peut couvrir finalement une surface assez vaste. Et il y a un autre mauvaise qualité qui est comparée à une racine également que nous trouvons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. C'est une origine du péché également qui commence tout petit et qui peut finir par être très très grand. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Une racine d'amertume. Un peu comme cette plante que j'avais devant ma maison avant. Une racine enterrée, on ne le voit pas, mais qui peut aller loin, qui peut voyager loin, qui peut s'étendre loin. Et puis rejaillir quand on s'y attend pas. Le plus souvent, pour la plupart des plantes et des arbres, on ne voit pas des racines. Il y a quelques exceptions, mais normalement, on ne les voit pas. Les racines sont invisibles. Et l'amertume, comme le péché, peut commencer aussi petite, de cette façon-là. Quelqu'un a un mauvais sentiment à propos de quelque chose que quelqu'un aurait dit ou aurait fait à son égard, et puis, on commence à être un rancunier, on n'aime pas ça. Et puis, au lieu d'aller voir la personne, comme il est dit dans Matthieu 18, pour essayer d'aider son frère, eh bien, ça couve, ça grandit, les racines s'étendent, et finalement, ça peut devenir pratiquement impossible à les sortir. L'amertume peut provenir de presque n'importe quoi. Le péché aussi peut provenir de presque n'importe quel désir mauvais que nous n'intervenons pas pour enlever assez rapidement. Ces racines poussent sous le sol pendant un certain temps et sortent subitement du sol là où on s'y attend pas. Alors, ça nous pousse à poser une question à propos de nous en nous examinant pendant cette fête des pains sans levain, en considérant le péché et notre lutte contre le péché. Est-ce qu'il y aurait des racines ou une racine d'amertume en nous, une racine que nous devons déraciner, une racine qui est venue de quelque chose, une action, une mauvaise parole que quelqu'un aurait dit, qui nous a blessés, peut-être même terriblement blessés de par le passé. S'il y a une racine d'amertume, s'il y a quelque chose comme ça dans notre passé qui n'a pas été résolu, qui n'a pas été clarifié, c'est notre responsabilité d'essayer de le faire, pour autant que cela dépend de nous. Parfois, ça ne dépend pas uniquement de nous, mais pour autant que cela dépend de nous, nous devons prendre les devants pour aller essayer de trouver une solution et de remédier à cela, de tirer ça au clair, pour que cette racine d'amertume n'en affecte pas beaucoup, ne finit pas par toucher d'autres rapports entre d'autres personnes et peut refroidir les relations d'amour qui devraient exister entre frères et sœurs dans l'Église, entre membres d'une même famille physique, et ainsi de suite. Première leçon à propos du levain, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un tout petit péché peut finalement finir très grand, et peut nous détruire. Une petite racine d'amertume, par exemple, peut affecter beaucoup, beaucoup de gens et peut faire énormément de dégâts, non seulement dans nos propres vies, mais aussi dans les vies de quelqu'un d'autre. Et je sais que personne d'entre nous ne voudrions pas être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre trébucherait. Ça serait une grave responsabilité. Alors, si nous pouvons penser à quelque chose comme cela, Dieu veut que nous prenions les devants pour essayer de trouver une solution, pour chercher la réconciliation, pour enlever cette petite racine, pour enlever ce peu de levain qui pourrait, si on le laisse courir, faire gonfler toute la pâte. Ça, nous ne le voulons pas. Une deuxième leçon, deuxième illustration de levain. Reportons-nous à Exode chapitre 12. Exode 12, verset 39. Exode chapitre 12, verset 39. Autre caractéristique du levain, qui va nous faire penser aussi au péché, se trouve ici, dans Exode chapitre 12, verset 39. Les Israélites firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? C'était des pains sans levain parce qu'ils étaient pressés. Ils n'avaient pas pris de provisions avec eux. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient pu laisser la pâte à l'air libre et finalement, il y aurait eu un levain qui aurait commencé. La pâte aurait commencé à gonfler. Pourquoi? Parce que le levain est partout. Le levain est partout dans l'air. Il suffit d'avoir assez de temps pour laisser la pâte se reposer à l'air libre et il y aura une levure qui va commencer. La pâte va se gonfler. Il y a des spores de levain un peu partout dans l'air. Et sans amener de provisions avec eux, souvent, on gardait un peu de pâte qui était déjà montée, qui était déjà levée. On mettait ça de côté pour que quand on commence une nouvelle pâte, on pouvait mélanger l'ancienne pâte avec. Et le processus de levain, de levure, eh bien, ça se propageait beaucoup plus rapidement. Mais faute de cela, on pouvait simplement laisser dehors pendant un certain temps. Et voilà, la fermentation allait avoir lieu. Les Israélites ont fait du pain sans levain parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de laisser leurs pâtes à l'air libre pour obtenir un levain et ils n'avaient pas amené leurs petites pâtes de début pour commencer une nouvelle fermentation. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de rapidement faire cuire des gâteaux qu'ils n'avaient pas eu le temps de se lever. Ça veut dire, la leçon pour nous dans cette comparaison, c'est que le péché aussi est partout. Il suffit de nous laisser aller dans certaines conditions, sans faire attention, sans nous protéger, sans chercher à être protégé, et le péché va se développer automatiquement. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, si nous ne nous protégeons pas, eh bien, le péché va commencer à croître, va s'enraciner et va commencer à gonfler. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'aller dans une pièce, peut-être dans votre maison, dans la maison de quelqu'un d'autre, et quand c'est un peu sombre, vous voyez, mais pas très très clair, l'air dans la pièce a l'air pur. Vous ne voyez rien, ça semble très clair, l'air semble normal, comme si on était à l'extérieur. Puis, on voit un rayon de soleil qui entre par une fenêtre ou par une porte, qui passe par la vitre, ou peut-être qu'il n'y a pas de vitre, et tout d'un coup, quand la lumière perce à l'intérieur de cette pièce qui avait été sombre, à la lumière du soleil, tout d'un coup, on voit beaucoup de particules, de poussière, de beaucoup de choses qui flottent dans l'air. Des éléments que l'on ne voyait pas auparavant. Avant que cette brillante lumière arrive, on ne voyait rien, tout semblait bien. Mais à la lumière vraiment du soleil maintenant qui perce, là tout d'un coup on voit toutes sortes de choses que l'on ne voyait auparavant. Eh bien ça c'est l'air et le levain est comme cela également. Le levain est partout. On ne le voit pas toujours, mais il est là. Le péché aussi, il est partout. Les tentations vers le péché sont partout, mais on ne les voit pas toujours. C'est seulement dans certaines conditions qu'on peut en prendre conscience. Toujours présent, le plus souvent invisible. Regardons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Verset 1, pour, petit verset pour voir mieux le contexte. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est Satan dont il est question ici, le prince de la puissance de l'air. Il a une puissance dans l'air. Et nous comprenons par cela que Satan est capable d'émaner des attitudes comme la rébellion. Il agit dans les fils de la rébellion. Satan pousse l'attitude de la rébellion. Et en fait, il pousse des attitudes, il émane des attitudes de tout ce qui irait dans le sens contraire de la voix de Dieu et la loi de Dieu. Il est le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan a le pouvoir d'avoir une certaine influence sur les êtres humains. Il ne peut pas nous maîtriser complètement. Le plus souvent, il y a des gens qui sont possédés, mais ça c'est très rare. Et le plus souvent, il s'ouvre à cette influence. Mais si nous ne voulons pas être ouverts à cette influence-là, mais si on ne fait pas attention, on n'est pas au courant de ce qu'il est en train de faire, il peut insérer des attitudes, il peut émaner des attitudes dans notre esprit. Principalement, la rébellion contre Dieu. Mais ce que nous voyons par là, c'est un peu comme si nous nagions dans un courant où des mauvaises attitudes, des attitudes qui tendent vers le péché, nous entourent, nous submergent. Et la plupart des gens sont ignorants de cela, ils ne savent pas. Mais quand on regarde le monde dans lequel on vit, est-ce qu'on ne voit pas une attitude de rébellion de plus en plus forte à tous les niveaux? Dans les pays nantis, on voit de plus en plus de gens qui refusent toute autorité. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit, quoi faire, non. On se rebelle contre les forces de l'ordre, contre les lois qui sont instaurées par des gens démocratiquement élus, par le peuple. Mais de plus en plus, les gens refusent. Ils ne veulent pas se soumettre à quoi que ce soit. Et ça se trouve dans beaucoup d'endroits, des rébellions, des rebelles, des mouvements rebelles, des guerres civiles. Ça se passe dans beaucoup d'endroits dans le monde parce que il y a un prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion aujourd'hui. C'est ce que Satan fait. Genèse chapitre 4, regardons un autre passage qui se sert d'une autre analogie pour le péché. Genèse chapitre 4. Dans le bon livre d'abord. Genèse chapitre 4, verset 6. Caïn avait une mauvaise attitude. Il était fâché contre Dieu et contre son frère parce que son offrande n'avait pas été agréée. Il n'avait pas fait comme il fallait. L'Éternel dit à Caïn, verset 6 de Genèse 4, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, ce que tu n'as pas fait jusqu'à présent, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, attention, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Le péché est comparé à un animal sauvage dangereux, qui couche à la porte, qui est prêt à nous happer si nous ne faisons pas attention en passant la porte. Si nous agissons bien, si nous faisons attention à notre conduite, nous allons relever le visage, tout ira bien. Mais si nous agissons mal, eh bien, le péché est là, prêt à se saisir de nous. Prêt à se saisir de nous. Satan est le prince de la puissance de l'air. Et si nous ne faisons pas attention à ces influences qui nous submergent, qui sont autour de nous, si nous ne faisons pas attention, nous allons finir par nous faire avoir. Ça, c'est une leçon du levain qui est vraie également pour le péché. Le levain prend un peu partout. S'il y a assez de temps qui passe, n'importe quelle pâte va commencer à gonfler. N'importe quel jus va commencer à se fermenter. C'est dans l'air. Et si nous ne faisons pas attention, le péché qui est émané, cette attitude de rébellion qui est émanée au monde entier par le prince de la puissance de l'air, eh bien, ces influences finiront par nous avoir également. Nous devons donc être sur nos gardes. Autre comparaison, autre leçon du péché, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, verset 24. Luc chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu nous as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Ouvriers d'iniquité. Il y en a il y a des gens dans le monde que Dieu qualifie d'ouvriers d'iniquité. Ils sont toujours actifs à pécher, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Pour nous, si nous voulons éviter d'être des ouvriers d'iniquité, nous devons œuvrer à autre chose. Nous devons lutter. Il y a un effort à déployer pour accomplir l'œuvre de Dieu si nous ne voulons pas être des ouvriers d'iniquité. Autrement dit, le levain, le péché, n'est pas facile à enlever. Le levain peut être difficile à nettoyer, et le péché est difficile à enlever, à sortir également. Je me souviens d'une année à l'approche de la fête des pains sans levain, j'ai nettoyé ma voiture dans le garage. J'ai sorti l'aspirateur, j'avais tous les produits nécessaires pour bien le nettoyer. J'ai aspiré à l'intérieur, j'ai nettoyé avec un produit, avec une essuie, etc. Et quand j'avais tout terminé à l'intérieur, ça avait l'air propre, ça avait l'air vraiment net. J'étais fier de mon travail. Et puis, j'ai reculé la voiture, je l'ai sortie du garage. Et là, quand il y avait beaucoup plus de lumière, encore ces rayons de soleil qui perçaient à l'intérieur, j'étais surpris de voir ce que j'avais manqué. J'étais passé à côté de beaucoup de choses parce que je ne les voyais pas. Mais quand la lumière était plus claire, plus brillante, là, je voyais, je pouvais voir. Et j'étais étonné. Et un peu attristé aussi, mon beau travail, du moins ce que je pensais être un bon travail, n'était pas si beau que ça. Et il fallait recommencer. Bien, nous aussi, il est nécessaire pour nous d'avoir, de lutter avec l'aide de l'inspiration de Dieu, qui nous ouvre les yeux pour voir ce qui est là. Le psaume 119 explique que la parole de Dieu est comme une lumière pour nous. Et nous devons regarder nos vies, nous devons regarder nos activités à la lumière de la parole de Dieu, qui nous aide à voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand nous étudions la parole de Dieu, quand on réfléchit bien, ça porte une lumière sur notre vie, sur nos vies, notre façon de vivre, sur les différents aspects de la vie. Et Dieu peut se servir de notre étude, de notre lecture, pour attirer notre attention sur « Ah, là, il y a un point que tu n'as pas vu jusqu'à présent. Là, il faudra que tu te concentres dessus. » Tu piques des crises de colère, ou tu parfois tu déformes un petit peu la vérité pour s'esquiver de quelque, pour t'esquiver de quelque chose, etc. Il peut y avoir des petites choses où Dieu attire notre attention pour dire, t'as pas pris conscience de ça encore, et il faudra le faire. Ça, c'est cette lumière qui perce dans la voiture pour nous montrer des choses qu'on n'aurait pas vues auparavant. Et c'est un effort. Il faut faire un effort. Si nous ne voulons pas faire un effort pour respecter la volonté de Dieu, nous finirons par être des ouvriers d'iniquité. Il n'y a que deux voies dans la vie. La Bible est très claire. Il y a la voie du péché qui conduit à la mort, ou il y a la voie de l'obéissance qui conduit à la vérité et finalement à la vie. Il n'y a que deux voies. Lutter contre, enlever le levain peut être difficile. Lutter contre le péché est également difficile. Si vous avez des enfants, surtout des enfants en bas âge dans la maison, vous allez remarquer que le levain ou des produits levés vont apparaître dans les endroits les plus étranges. Je me souviens quand nos filles étaient petites, je trouvais des bouts de sandwich ou de biscuits dans les poches de mes vêtements, derrière le canapé, dans d'autres meubles. Les enfants les ont fouinés, on ne sait pas pourquoi, un peu partout. Sous le lit, ça c'était le levain, pendant la fête des pains sans levain. Mais le péché peut également surgir des endroits inattendus et à des moments inattendus également. Nous pouvons nous surprendre, avoir une pensée de vouloir nous venger. Ce gars m'a coupé dans la circulation, je vais lui faire pareil. Ou il m'a dit un mauvais mot, mais je vais lui répondre comme ça. Il m'a dit un mot dur, je vais répondre de la même manière. Et si on ne se saisit pas de nouveau, si on ne fait pas attention, si on n'est pas sur ses gardes, eh bien, on peut agir de cette façon rapidement et sans nous en rendre compte immédiatement. Et c'est seulement après qu'on dit, j'avais dit que je ne le referais pas. J'avais promis à Dieu que j'allais faire tous mes efforts pour ne plus faire ça. Et voilà, je suis retombé dedans. Je ne sais pas quand il en est pour vous, messieurs, mais je me demande si vous aimez parfois sauter quelques jours de rasage quand vous êtes en vacances ou quand vous n'avez pas à travailler, quand personne ne vous verra pendant un certain temps, vous ne prenez pas le temps de vous raser le matin. J'avoue que ça m'arrive des fois, moins maintenant que j'ai une barbiche, mais avant, quand je sortais en vacances, il n'y avait que mon épouse et moi, je laissais pousser la barbe pendant quelques jours. Parce que après tout, c'est ennuyeux de devoir refaire les mêmes choses jour après jour le matin. On aimerait parfois sauter ça. mais pour être propre et net, ça c'est une tâche qu'il faut faire tous les jours. Sinon, après un jour ou deux ou trois, on commence à avoir l'air pas tout à fait net, comme on serait si on se rasait tous les jours. Gardez le péché en dehors, garder le péché à distance, en dehors de nos vies, c'est un peu comme le fait de se raser. Cela doit se faire régulièrement. Il faut une attention quotidienne. Tout comme nous ne pouvons pas nous raser et puis c'est bon pour la semaine, hop, c'est fait, je l'ai fait dimanche matin, j'ai plus besoin de le faire. Non, nous ne pouvons pas éteindre le péché le dimanche et puis ne pas en faire jusqu'au reste de la semaine, c'est fini. Nous rasons, en quelque sorte, le péché. Nous l'extirpons de la vie. Mais les manifestations pourront facilement continuer à réapparaître et devront être de nouveau rasées. Lutter contre le péché exige une attention continue. On ne peut jamais vraiment baisser les bras, dire « voilà, je l'ai fait dimanche, c'est bon pour la semaine ». On ne peut pas. Ça nécessite une attention et un effort constant. Ça, c'est cette troisième leçon tirée du levain et comparée au péché. Pour éviter d'être des ouvriers d'iniquité, il faut lutter. Il faut être des ouvriers de justice. Tout comme si nous voulons empêcher au levain d'être dans la maison, eh bien, on doit chercher et on doit l'enlever consciemment. Cela exige un effort à l'approche de la fête des pains sans levain. La lutte contre le péché exige un effort tous les jours de la vie. Une quatrième leçon du levain comparé au péché. 1 Jean chapitre 5, verset 17. 1 Jean chapitre 5, verset 17. toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort éternelle. En fait, en bref, on peut dire que le péché qui ne mène pas à la mort, c'est le péché où nous pouvons encore nous repentir. À chaque fois qu'il y a repentir, il y a pardon. Mais la Bible parle d'un péché impardonnable, et ça devient impardonnable quand nous sommes dans une attitude tellement endurcie qu'on ne peut plus se repentir. La Bible dit que c'est possible de se laisser aller à un point où on devient incapable de se repentir. Et si c'est le cas, alors là, ça c'est un péché qui mène à la mort. Parce que quand il n'y a pas de repentir, il n'y a pas non plus de pardon. Mais le verset 17 dit, tout péché, toute iniquité plutôt, ou toute injustice on pourrait dire, toute iniquité est un péché, toute injustice est un péché. Et ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui est péché et ce qui n'est pas. Ça demande une expérience, une réflexion, ça demande aussi l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il n'est pas toujours facile de savoir si un produit contient du levain. Aujourd'hui, nous pouvons, si c'est empaqueté dans quelque chose, eh bien, on peut regarder les ingrédients et on peut savoir s'il y a du levain ou s'il n'y a pas de levain. Mais ça peut être un peu traître des fois. Je me souviens d'avoir vu à un moment donné qu'il y avait des matzos qui étaient vendus en commerce, mais qui n'étaient pas prévus pour la Pâque ou la fête des pains sans levain. Et les matzos, puisqu'il y a des gens qui les aiment à l'année, ces matzos-là avaient du levain dedans. C'était levé, des produits levés. Et on ne devait pas les prendre. On aurait pu dire à un matzo, ben, c'est sans levain, ce n'est pas un zyme, il n'y a pas de problème. Et si on se donnait le temps de vérifier, on voyait, ah, ils ont mis du levain dedans. Ça, je vais l'éviter pendant la fête des pains sans levain. Il n'est pas toujours facile de savoir quand il y a un produit levé dedans. On peut regarder des biscuits et dire, est-ce qu'il y a du levain dedans? Il faudrait que je vérifie parce que ce n'est pas sûr. Pas toujours facile de savoir. Eh bien, ce n'est pas toujours facile de savoir non plus où finit le péché et où commence la justice. Où finit la justice et où commence le péché. Parfois, c'est très clair, mais parfois, c'est moins clair. Prenons un exemple dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Le plus souvent, je pense, quand on pense à un péché, on pense à quelque chose de mauvais qu'il ne faut pas faire. Tu ne tueras point, tu ne porteras pas de faux témoignage. L'inverse de ça, c'est un péché. Si tu transgresses cette loi, si tu fais cette mauvais acte, eh ben là, ce mauvais acte, tu as péché. Mais notons autre chose. Dans Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ah, le péché est la transgression de la loi, ça c'est la définition la plus simple, mais quand on sait faire ce qui est bien, ce qui est la volonté ou la loi de Dieu, et on ne le fait pas, ça aussi c'est un péché. De savoir qu'on devrait faire ceci et de ne pas le faire, c'est un péché. C'est un péché là aussi. Et là, c'est plus difficile de savoir ce qui est transgression et ce qui n'est pas. Je devrais faire cela si on sait consciemment que Dieu voudrait qu'on fasse telle ou telle chose, que c'est ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. C'est un péché. Ça aussi, c'est un péché. Et là, c'est plus difficile à reconnaître la ligne entre ce qui est péché et ce qui n'est pas. Toute injustice, toute transgression est péché. Que ce soit péché de commission, comme on dit, ou péché d'omission. Un péché qu'on commet, ou un péché qui arrive quand on omet de faire quelque chose. Une omission. Quand on ne le fait pas, ça peut être péché également. Et pour pouvoir vraiment distinguer clairement, nous avons besoin de savoir ce qui est marqué dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Là, nous lisons, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons besoin d'apprendre à juger les pensées du cœur, les sentiments et les pensées du cœur. Et ça, nous faisons à travers la parole de Dieu. Sans l'aide de la parole de Dieu, nous ne pourrions pas être aussi efficaces à distinguer la différence entre ce qui est péché et ce qui n'est pas, parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Le scientifique Richard Feynman, qui est bon maintenant depuis 20 ou 25 ans, je crois, mais était très connu de son vivant, il a dit dans une adresse à des étudiants qui venaient de recevoir le diplôme à l'Université Polytechnique de la Californie, étudiant en sciences. Il a fait un discours très connu qui est souvent cité en 1974. Il a dit ceci à propos de l'honnêteté chez les scientifiques et la vérité. Il a dit « Cette longue histoire d'apprendre à ne pas se tromper, d'avoir une intégrité scientifique totale est, je suis désolé de le dire, quelque chose que nous n'avons pas spécifiquement inclus dans un cours particulier. » À ma connaissance, en parlant de leurs cours universitaires. Nous espérons simplement que vous l'ayez compris par osmose, comme une plante qui reçoit la lumière du soleil et qui peut le transformer en autre chose. Il continue. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper, vous séduire. Vous ne devez pas vous tromper. Et vous êtes la personne la plus facile à tromper. C'est vrai que nous pouvons nous séduire, nous pouvons nous tromper nous-mêmes très facilement parce que nous avons bien regardé ce qui est bien et nous préférons détourner le visage de ce qui ne va pas. Non, je ne veux pas regarder ça chez moi. Je n'aime pas voir des choses qui ne vont pas. Je n'aime pas voir les tares. Je n'aime pas voir les péchés. Il a dit, le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Là, nous devons faire très attention à cela. Parce que toute injustice est péché. Quelque chose qu'on fait qu'on ne devrait pas, mais aussi quelque chose qu'on devrait faire, mais on évite de le faire. On ne le fait pas. Nous devons apprendre à ne pas nous tromper. Nous devons apprendre à ne pas nous voiler la face. Alors, nous pourrons être honnêtes avec nous. Et quand nous avons appris à être vraiment honnêtes avec nous-mêmes, là, nous pourrons être honnêtes avec d'autres. Et en particulier, nous pourrons être honnêtes avec Dieu. Si nous nous voilons la face de certains tares chez nous, nous n'allons pas nous en repentir devant Dieu. Et nous ne serions pas, dans ce cas-là, pardonnés de ces péchés. Toute injustice est péché. Et nous devons bien apprendre à distinguer. Ce n'est pas toujours très facile à voir. Cinquième leçon du péché et du levain. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché. Les produits levés, les pains levés, sont plus agréables à la vue et texture et goût le plus souvent, comparés aux pains sans levain. Eh bien, de prime abord, quand on regarde au début, la voie du péché peut sembler plus agréable, peut sembler nous récompenser meilleur, de meilleure façon que ce que Dieu nous demande de faire. Les produits levés sont plus attrayants aux yeux. La voie du péché semble au début plus attrayant à la vue également. Ça, c'est le piège du péché. C'est pour ça que pratiquement tout le monde suit ce chemin. Mais on regarde, voilà, c'est ça que je veux. Les plaisirs des sens, les plaisirs de la chair, tout cela est agréable, je vais suivre ce chemin-là. La jouissance du péché. Et c'est vrai que pendant un petit temps, un court temps, il y a une jouissance dans certains péchés. mais il y a de longues souffrances qui viennent après. Il y a des souffrances plus graves et plus importantes qui viennent par la suite. Et ça, c'est un choix que nous devons faire. Nous devons regarder et dire, oui, il peut avoir une jouissance pendant un court temps, mais je refuse cela. Je préfère rester, comme Moïse l'a dit, avec le peuple de Dieu. Je préfère même souffrir là, parce qu'à long terme, il y a beaucoup plus de joie. Et pendant toute l'éternité, à suivre cette voie-là. Donc, psaume 73, David explique qu'il a eu un grave problème avec ça. Ça a coincé pour David pendant un temps, parce que la jouissance, ceux qui jouissaient du péché, semblaient avoir une existence beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile que David, qui lui s'est forcé d'accomplir la volonté de Dieu. Lisons le psaume 73. Psaume d'Asaph, et quand c'est psaume d'Asaph, ça ne veut pas dire que ce n'est pas David. Asaph, on ne sait pas exactement qui c'est, peut-être un musicien dans la cour de David. Nous pensons que c'est un psaume de David. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, oui, je sais, la voix de Dieu est meilleure. Toutefois, tout en sachant cela, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ça vous est déjà arrivé de penser à ça? Regarde les vedettes du cinéma, des chanteurs de rock qui ont limousine, grosse voiture, vacances ailleurs, etc., de belles femmes, beaucoup d'argent, et on se regarde soi pour dire, mon existence est bien différente. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils ont la vie facile. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier à la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Les gens qui parlent méchamment et fortement, c'est comme si leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut reconnaîtrait-il? Ces gens persistent pendant des années et tout va bien pour eux, alors que moi, regardez mes défis, mes épreuves. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est pas juste. Ça semble pas juste que ce soit si facile pour ces méchants. Ils ont la jouissance du péché et ma vie est rude. Verset 17. La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé par les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Si nous ne voyons pas la chose à long terme, si nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas à ce que Dieu nous dit comme fin de l'histoire, eh bien, nous pouvons être tentés à préférer les jouissances du péché pendant un temps. Mais à long terme, le psalmiste dit, j'étais bête de penser comme ça. C'était stupide de ne pas voir la plénitude de cette histoire. Et comment seront les fins de ces deux voies, la voie de la désobéissance et du péché et la voie de Dieu. J'ai lu un article dans un journal à propos d'un voleur en Russie qui attrapait des saucisses dans un marché de viande. Et puis, en s'enfuyant, il a découvert que la saucisse qu'il avait prise faisait partie d'une chaîne de saucisses de 3 mètres de long, ou 3 ou 4 mètres de long. Et alors, quand il s'est rendu compte, entravé dans son évasion, il a trébuché plusieurs fois et finalement la police a fini par le rattraper parce qu'il est tombé après s'être entremêlé dans son butin. Ça, c'est une bonne illustration du péché aussi. On regarde, ça a l'air bien, on s'en saisit, on court avec et puis on se rend compte qu'il y a des effets secondaires. On s'y attendait pas. Eh ben tiens, je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Et puis ça. Ça, c'est le péché. Nous devons éviter, frères et sœurs, la jouissance du péché pour un temps, parce que ce temps n'est pas très long. Et ce qui vient après est très, très dur. Et ça finit, comme nous avons déjà dit, ça finit par la mort, la voie de la mort, si on choisit les jouissances du péché. Mais tout comme les produits levés sont plus agréables, eh bien, la voie du péché peut sembler avoir ses jouissances. Mais à la longue, c'est la voie du pain sans levain qui va durer, la justice et la vérité. Sixième et dernière leçon que nous allons voir aujourd'hui, analogie entre levain et péché, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. Nous devons faire attention. Veillons et soyons sobres. Le plus souvent, frères et sœurs, si nous mangeons du levain pendant la fête des pains sans levain, et peut-être que ça nous est arrivé, c'est par mégarde ou par inattention. On ne le fait pas exprès, mais on est distrait par autre chose et puis on mange quelque chose sans trop y penser. On se rend compte après, là, il y avait du levain dedans. Je ne devais pas faire ça. Et on doit aller demander pardon à Dieu et on doit apprendre la leçon qui est, on peut par mégarde ou par inattention facilement aussi tomber dans le péché. Je me souviens une fois quand j'étais petit, j'étais avec mon père, je ne me souviens plus où on allait, mais on roulait en voiture tous les deux. C'était pendant la fête des pains sans levain. Et nous parlions de choses et d'autres. Nous nous sommes arrêtés pour manger un petit bout dans un fast-food. Et sans y avoir pensé, on a commandé des hamburgers. Et ce n'est que lorsque les hamburgers sont arrivés devant nous, on les avait à la main, que mon père a dit, « Oh, c'est la fête des pains sans levain. On ne doit pas manger ces pains-là. » C'était des pains levés sur le hamburger. On s'est souvenu. Mais seulement, heureusement, à la dernière minute, on aurait pu croquer dedans avant de nous rendre compte qu'on était pendant l'affaire parce qu'on était distrait, on pensait à autre chose, on avait une belle conversation, on parlait de choses et d'autres, et le souvenir de la fête des pains sans levain était sorti de la tête. Si jamais cette idée d'être sur nos gardes contre le péché, si ça s'éloigne de nous, de notre esprit, on peut facilement tomber dedans. Si on est distrait, et on le fait par mégarde, ça peut arriver. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter de tomber dans ce piège? Regardons le verset 8 et 9. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne nous as pas destinés à la colère. Nous devons être sobres. En fait, il y a 4 choses qui sont mentionnées ici que nous devons faire pour ne pas devenir ou redevenir des enfants des ténèbres, être plutôt nous qui sommes du jour. Nous qui sommes du jour, pas de la nuit spirituellement, soyons sobres, premièrement, sérieux. Regardez la vie en face, réfléchir à ce qu'on est en train de faire, prendre cela au sérieux, comprendre que notre lutte contre le péché est sérieuse. C'est un effort sérieux. Nous devons deuxièmement revêtir la cuirasse de la foi dans les promesses de Dieu, dans la bonté de Dieu, que tout ira bien hein, si nous persévérons dans cette bonne voie. Cela nous aide à ne pas retomber dans la nuit spirituelle. Troisièmement, on doit avoir la cuirasse de la foi et de la charité. L'amour aussi nous protège. Quand nous sommes motivés par l'amour pour d'autres personnes, motivés par l'amour de Dieu d'abord, et motivés par l'amour de notre prochain, nous n'allons pas faire du mal aux autres. Nous n'allons pas transgresser la loi de Dieu. Et nous devons, quatrièmement, dans ce passage ici, nous devons avoir le casque d'espérance du salut. Ça protège la tête. L'espoir confiant que nous avons dans le salut que Dieu nous a promis. Cette vie physique n'est que temporaire. Elle ne va pas durer très longtemps. Et puis, nous avons toute l'éternité qui nous attend. Ce sont les choses que nous devons faire pour être du jour et pour ne pas tomber dans la nuit spirituelle. Si nous tombons dans le péché, c'est par inattention le plus souvent. Si vous mangez du levain pendant la fête des pains sans levain, c'est par mégarde. On s'est laissé distraire, on pensait à autre chose. Et avec le péché, c'est pareil. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Relisons ce que nous avons lu au début. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Et pendant cette fête, rappelons-nous des leçons, des parallèles, des analogies que nous avons vues aujourd'hui. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un petit péché peut devenir très vaste. Vaut mieux l'attaquer quand il est petit. Le levain est partout. Le péché nous guette partout également. Il faut vaincre, il faut faire un effort pour enlever le péché, il faut veiller. Eh bien, nous devons lutter également pour vaincre le péché. Ça prend un effort également. Toute injustice est péché. Comme il est difficile de distinguer entre ce qui est levé parfois et ce qui n'est pas, là où il y a du levain et là où il n'y en a pas, c'est pareil avec le péché. Le péché n'est pas seulement ce qu'il ne faut pas faire, mais parfois c'est ce qu'il faut faire. Et ne pas faire ce qu'il faut, ce que l'on sait faire, ça aussi c'est un péché. Les produits levés sont plus agréables à la vue, sont plus appétissants que les pains sans levain. Et la voie du péché promet une jouissance, mais de courte durée. Et ça nous devons bien comprendre. Et nous pouvons facilement manger du levain par inattention ou par mégarde, eh bien c'est la même chose avec le péché. Si nous tombons dedans, c'est que nous nous sommes laissés distraire. Et ça, nous voulons l'éviter. Alors, frères et sœurs, alors que nous célébrons les jours des pains sans levain, réfléchissons à ces leçons que nous tirons du levain et de ses parallèles avec le péché. Rappelons-nous les clés que la Bible nous donne pour nous aider à lutter, pour empêcher que le péché ne revienne dans nos vies. Alors, nous pourrons faire notre part pour empêcher au péché de revenir. Et nous allons continuer de vivre par la voie de la sincérité et de la vérité. Joyeuse fête.